va m'occuper de deux enquiquineurs.
Thomas, est-ce que tu me reçois ?
5 sur 5. Quelle est ta situation ? Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview.
Merci de m'y avoir invité.
10 ans en arrière, tu as participé au doublage de Metal Gear Solid en interprétant les légendaires Solid Snake. Depuis, tu as participé à plusieurs projets, les derniers en date Roche Rouge, Jeans et également Groupuscule, où l'on peut retrouver des épisodes sur Dailymotion. Peux-tu nous en dire plus ?
Ça fait partie de mes activités, essayer d'être comédien, donc de participer à différents tournages. Donc il y a eu Jeans, qui est un long métrage qui devrait sortir courant 2010, un film fantastique qui se passe pendant la guerre d'Algérie. J'ai participé donc à Roche Rouge, qui est un court métrage d'horreur. Groupuscule, c'est une petite série avec des copains qu'on fait pour s'amuser, essayer d'écrire et de faire des choses bien, quoi. Donc voilà.
D'ailleurs, pour Groupuscule, tu travailles en famille. Ton petit frère participe également au projet.
Pas mon petit frère, entre les deux en fait. Mon frère Renaud, oui, qui réalise, qui est réalisateur monteur. Et qui travaille dans la télé, dans le sport, et quand on a parlé du projet, lui, ça le bottait de bosser là-dessus, quoi. Exactement. Mais on est trois frères, on est tous intermittents du spectacle, donc voilà.
Donc une famille de comédiens.
D'artistes.
Voilà, non, enfin, moi je suis comédien, Renaud, réalisateur-monteur, et Axel, lui, travaille dans les effets spéciaux à Londres sur des gros films, quoi.
On connaît tes goûts pour les jeux casual et les films d'auteur, mais dernièrement, quel a été le jeu ou le film qui t'a marqué ?
Oh, question vaste. Le jeu, je joue pas beaucoup, mais le jeu que j'ai vraiment aimé, c'était BioShock, parce que c'était une bonne claque. Visuel, c'était assez hallucinant. En matière de cinéma, je regarde vraiment beaucoup de choses. Dernière chose qui m'a vraiment marqué, si le film Hunger de Steve McQueen.
Pour en revenir à Metal Gear, à propos de ton doublage, beaucoup de fans se sont plaints de la voix très rauque de Snake. Que peux-tu leur dire à ce sujet?
ils ont raison, c'est un avis. Après, si tu veux, quand t'enregistres un jeu, tu suis des directives. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas, tu vois, c'est à l'époque on m'avait demandé de faire cette voix un peu.
Un peu à la Rambo.
Un peu à la Rambo. Enfin, c'était surtout quand même vachement inspiré de Snake Plissken de New York 97. Mmh. Et si tu regardes, il me semble que si tu regardes le début de Los Angeles 2013, tu as le début de Metal Gear Solid. Avec dans le sous-marin la petite roquette et le gars qui parle.
Exact.
Qui est exactement la même intro. Et à l'époque, il voulait quelque chose d'assez guerrier. Et visuellement, si tu veux, Solid Snake ressemblait plutôt à Tom Cruise dans Mission Impossible. Et il y avait un décalage. C'était un choix artistique, mais... Donc il y en a à qui ça a déplu et il y en a à qui ça a plu. Voilà. Ce qui m'étonne parfois, c'est le déversement, comme quoi c'est voile fautif. peut-être, mais c'est pas aussi simple que ça quand même.
C'est sûr. Si tu devais redoubler Snake, quelle voix lui donnerais-tu ?
Moins grave, moins guerrière. Je bosserais plus sur une fracture en fait, parce que ce genre de personnage là a forcément une fracture, une douleur quelque part. Et je pense que ce serait plus là-dessus. qu'un truc un peu, ouais, un peu guerrier, genre bête de guerre, etc. Je pense que ça sera plus intéressant de donner un plus de relief dans la voix et sa personnalité, en fait.
Et est-ce que vous avez une idée d'une nouvelle voix pour Snake dans MGS?
Pas du tout, j'en ai pas, il me faudrait un texte, tu vois, comme ça, balancer une
Carrément.
voix. Je sais pas, j'ai plus proche de ma voix naturelle, au lieu d'aller chercher quelque chose de très grave et très drôle, qui n'est pas forcément voilà, très naturel.
Et aussi, avez-vous déjà pensé à une voix pour le Snake vieillissant de MGS4? Ou pas?
Bah non, pas vraiment. On avait essayé pour s'amuser, j'avais revoicé l'intro de MGS4, mais bon, ça a été fait tout seul. Après, vieillissance dans le cadre de Snake, moi je verrais pas tellement de métamorphose dans la voix, parce que la voix de quelqu'un d'adulte ne change pas tant que ça, mais plus sur tout ce qu'il a vécu, de charger la voix d'un peu plus d'histoire, un peu plus de douleur enfouie, on va dire.
Pour le plaisir, peux-tu nous refaire ta citation préférée?
Ici Snake, colonel, est-ce que tu me reçois?
Merci.
De rien.
Aurais-tu un petit mot à faire passer à nos auditeurs et aux fans de Metal Gear?
Bah merci. Non, c'est toujours hyper sympa de recevoir des messages. C'est super sympa de voir que des gens réagissent toujours à quelque chose qu'on a fait il y a aussi longtemps, que ce soit en bien ou en mal. Ce qui prouve, ça laisse pas les gens indifférents, et c'est très bien parce que, et bon, moi ça me touche beaucoup parce qu'en plus dans les jeux, bah, on fait des jeux, puis il n'y a pas forcément de retour, et voilà, alors que là, ça existe encore 10 ans après, et je suis vraiment ravi de temps en temps de recevoir un petit message, un petit coucou, que l'on se rencontre comme ça. Je trouve ça super, parce que quand on enregistre des voix, t'es un peu tout seul dans un studio face à un micro, quoi. Donc c'est très très bien d'avoir ces retours, donc bah voilà, merci.
Bah, tu
Mais
es
de
quand même
rien.
une voix de notre enfance pour la plupart.
Bah, c'est top, hein. Non, moi, je trouve ça super.
Quelle émotion.
Ah oui.
Merci à toi de nous avoir accordé cette interview. À très vite.
Bah, moi aussi. Merci Anna, puis à très bientôt.
Pendant l'interview, tu nous as parlé de BioShock. Quelles sont tes opinions sur ce jeu?
J'ai vraiment beaucoup aimé, mais je joue pas trop beaucoup parce qu'en fait j'ai pas énormément de temps. En plus, enfin, avec la vie de famille, c'est pas toujours ça fonctionne pas toujours avec les longues heures passées devant sa console. Mais BioShock, j'avais pris une bonne claque quand même, parce que visuellement c'est terrible. L'histoire est superbe. Je sais pas s'il y a toujours ces rumeurs comme quoi ils en feraient un film, mais
Ben, normalement, en fait, c'est toujours en cours, sauf qu'à cause de la crise financière qui oblige, le budget a été, on va dire, réduit. Mais dernièrement, il y aurait Wentworth Miller qui, maintenant, s'est libéré de sa prison break, qui est dans le projet. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire, sûrement le héros principal, mais bon. On verra, hein, parce que le problème des FPF, c'est que ça a sa propre narration. En plus, on voit absolument pas le héros. Alors, pas son visage, donc Matt Wentworth Miller, j'arrive pas à dire son nom, Wentworth Miller, qui est quand même une star entre parenthèses, enfin voilà quoi. Je pense
Ouais,
que
puis
j'ai
en
peur
plus,
qu'il le mette en avant.
les adaptations à chaque fois de FPS, ils sont un peu gourrés, quoi, au cinéma, donc bon.
C'est comme on a vu avec Doom.
Doom, oh mon dieu, Doom! Oh là là, 5 minutes qui ressemblaient à du FPS et 1h15 de nanar. Oh là
Voilà.
là. Oh là là. C'était monstrueux. Ah, c'est monstrueux ce que c'était. Non mais
Bah,
vraiment.
c'était raté, ouais.
Ouais. Mais bon, moi je joue pas trop FPS, hein, je suis une fille après tout. Mais voilà, j'ai demandé à mon frère qui connaissait, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble absolument pas à Doom, mais il m'a expliqué tous ces concepts de lumière, d'armes, tout ça, fait d'être dans le noir, j'ai fait ah ouais mais c'est terrifiant. Mais là, c'était pas du tout terrifiant. Hein,
Oh, mais plus comique qu'autre chose, le film.
Bah ouais, c'est plus, ils avaient pris The Rock, alors bon.
Déjà.
C'est ouais, mais bon, je pense que n'importe quel gros bonhomme bodybuildé, même si c'est pas The Rock, ça aurait fait débile aussi, quoi.
Oui, probablement.
En fait, je pense que la seule meilleure adaptation de jeux vidéo, meilleure, hein, je dis pas la perfection, ça a été pour l'instant Silent Hill. Hein, ça a, on va dire, une sorte d'univers à lui, ça, c'est assez pas mal, quoi.
Ah ouais, visuellement, c'était pas mal.
Ouais. Après, en fait, c'est grâce à ça que je me suis penchée plus près à Silent Hill, et évidemment les jeux sont pas pareils, mais je trouve que c'est bien, il y a vraiment une nette séparation entre le jeu vidéo et son adaptation cinématographique. Mais bon.
Mais le truc, enfin, moi je trouve ça très difficile, l'adaptation cinéma de jeu vidéo, parce que le jeu est vraiment une expérience tellement personnelle. Que quelqu'un passe des heures dans son petit monde, et c'est comme un peu un bouquin, on se crée son univers et on réagit, si tu veux, avec ses propres émotions, et après que quelqu'un impose une vision d'une heure et demie, je trouve que c'est un exercice qui est très difficile.
C'est risqué.
Donc, pas,
tout à fait.
Ça sert à rien, enfin, tu vois, c'est un jeu, ça s'arrête, c'est vraiment, tu vois, c'est un truc vraiment, vraiment spécial, quoi. Ça s'arrête, ça se reprend, ça, tu vois.
Mais c'est pour ça que moi j'ai peur, on va dire, quand j'entends oui, ça y est, projet film Metal Gear, oh, mais j'ai peur, quoi. J'ai peur parce que déjà, Metal Gear, enfin, Solid, le jeu, c'est un film en lui-même, alors donc je vois pas ce qu'on peut rajouter d'autre. C'est tellement immense, déjà les conversations codec. C'est un scénario, on va dire, qui se découvre petit à petit. Hein.
Bah, si devait faire un film tiré de ça, je pense qu'il s'inspirerait du personnage qui est intéressant, à écrire quelque chose de complètement différent. Et pas essayer de suivre une des histoires qu'il y a dans Metal Gear. Parce que ce serait casse-gueule, je pense.
Ouais.
Le personnage de Solid Snake est intéressant. Ça serait intéressant de développer ça. Mais après, il y a tellement d'histoires, de trucs. Puis c'est un jeu, on peut se permettre n'importe quel délire. Pas n'importe quel délire, mais beaucoup de. Enfin, ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête. Après, rendre ça sur 1h45 ou 2h, que ce soit crédible,
c'est dur.
Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si un film Metal Gear Solid verrait le jour, c'est que Hideo Kojima participerait au film d'une manière ou d'une autre.
Mais là ils font tu vois il y a c'est rentré en post-production Prince of Persia. Je doute sincèrement de la qualité de ce film là, ça sera pas un nouveau Pirates des Caraïbes.
Mais Pirates des Caraïbes, c'est un peu différent parce que c'est vraiment un univers qui a été créé à partir d'un manège, quoi. Donc il y avait vraiment toute une légende à inventer, tandis que Metal Gear ou alors autre chose comme Prince of Persia, ça a son propre univers. Et puis faut pas oublier qu'il y a à peu près trois univers différents, celui qui est apparu la première fois, je ne sais plus sur quelle console, ensuite celle des PlayStation, et maintenant celle de PS3 qui a complètement, on va dire, renouvelé son univers. Donc voilà, donc peut-être que, évidemment, ça c'est sûr, tu avais raison, Emmanuel, de dire que ce sera autre chose pour ce Prince of Persia cinéma, mais bon, est-ce que ce sera à la hauteur, est-ce que ce des Pirates des Caraïbes, ça reste à vous.
Je ne pense pas. Moi, je pense pas, non.
De toute façon, Walt Disney, il veut vraiment recréer, on va dire, le même phénomène que Pirates des Caraïbes. Hein. Donc, c'est même pas, on va dire, c'est presque pas une démarche artistique. C'est vraiment refaire un carton mondial, quoi, comme il y a eu. Donc...
Mais le truc des Pirates des Caraïbes, comme tu disais, c'est inspiré d'un manège et que tout le monde n'a pas vu. Donc après, on peut écrire n'importe quelle histoire, ça va, faire une adaptation de jeu, t'as des milliers de gens qui ont joué à ce jeu-là pendant, tu vois, des heures, et je sais pas, j'y crois moyen. En tout cas, les gens attendront une adaptation de jeu, or ça sera juste un film d'aventure, tu vois, ils prendront ce personnage-là, et voilà. Je sais pas s'ils vont suivre scénaristiquement tout, quoi.
Ben c'était, au fait, quand tu regardes les graphic novels, je sais pas si tu connais, Emmanuel, mais au fait, il y avait une autre version du scénario de Metal Gear Solid et de Metal Gear Solid 2 en graphic novel qui sont apparus, et ça ne respecte, enfin si, ça respecte, mais il y a quelques petits changements scénaristiques au niveau de la narration pour que ça colle avec l'esprit BD, et aussi je pense narrativement pour que ça tienne un petit peu la route. Mais je trouve que c'est pas mal. Il y a des choses, que j'aime pas, par exemple dans MGS2 Graphic Novel, c'est Snake qui tue Solidus, alors que normalement c'est Raiden, pour toute la symbolique que ça entraîne. Mais sinon, c'est vraiment pas mal, quoi. Pas mal. Donc s'ils arrivent avec des Graphic Novels à garder, on va dire, l'histoire, plutôt, on va dire, son univers et son identité, tout en faisant quelques modifications, pourquoi pas, ça, la pilule pourrait passer.
Ouais, peut-être, mais bon, je sais pas. Moi, je crois pas vraiment à l'adaptation au cinéma des jeux vidéo. Pour moi, c'est une, je vais pas dire une voie sans issue, mais c'est un piège. Et bon, voilà.
Bienvenue au club. Même avis.
C'est comme maintenant refaire un tas de films des années 80. C'est pareil. Pour moi, ça fait penser à un truc un peu pauvre au niveau de la création, quoi.
Ouais, surtout qu'au fait, c'est aseptisé. Mm-hmm. Enfin, oui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de remakes qui étaient très aseptisés, vraiment bâclés. Enfin, il y en aurait tellement à dire, quoi. Je sais pas, Abre los ojos, Agnieszka, et bof. Oh, il y en a d'autres qui me viennent aussi, mais bon, c'est pas très connu.
Ce sont les remakes en général, hein, c'est...
Surtout américain.
Surtout américain, ouais.
Ça devient niais, c'est joli, mais c'est niais.
C'est, moi, ça me fait peur quand je vois, par exemple, des films comme Total Recall. Mmh. Avec Schwarzenegger, il y a un remake qui est prévu. Bon, forcément, ce sera plus joli, mais ça me fait peur.
Mais pas le film non plus, hein.
Total Recall doit être de...
début 91,
par là. Début des années 90.
C'est un peu vieilli, hein, quand même, mais c'est pas mal.
J'avais l'espèce de moralité de me dire qu'on faisait des remakes quand, on va dire, tous les gens du projet étaient décédés, ou quand j'allais vraiment mettre au bout du jour. Non, maintenant, à partir de 15 ans, allez hop, on va reprendre ce qu'on a.
Ouais, puis ils font ça en ce moment avec tous les vieux films d'horreur, etc.
Scream, Vendredi 13, Freddy...
Halloween, ouais. Freddy... Ouais.
La colline à des yeux, plutôt.
Ouais, mais la colline à des yeux, le remake, j'ai trouvé réussi, moi. Mm-hmm. Le film, Alexandre Aja, il en a fait un truc hyper bestial, quoi.
Bestial.
Ah non, c'était sauvage. Pour moi, c'était un vrai survival, un truc. C'était plus un survival qu'un film d'horreur ou un slasher, quoi. C'était... Il y avait des trucs, c'était... Enfin, moi, j'ai bien aimé, hein.
Il aurait dû faire Resident Evil, alors.
Ah oui.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est...
Bah, voilà,
ça, c'est une autre très mauvaise idée, tu vois. Enfin, c'est... Voilà.
Autant Paul Anderson, voilà, quoi.
Non, mais malheureusement, c'est, on va dire, une saga cinématographique qui a été très très rentable avec les Tomb Raider. Bon, quand on voit Tomb Raider, c'est un énorme gros divertissement, sympatoche. Mais c'est vrai que Resident Evil, c'est tombé dans les films B, quoi. Premier, il était pas mal dans ce concept de lieu clos.
J'ai une petite préférence pour le second, qui est quand même plus respectueux au jeu.
Le problème, c'est que moi, les Resident Evil, je les ai vus surtout au cinéma. Donc, franchement, j'avais aucune idée du jeu. Je savais que ça me faisait peur. Un peu que j'avais juste joué à Nemesis, j'ai fait OK, au revoir. Hein, parce que cette espèce de géant qui traverse une fenêtre pour essayer de t'attraper, non merci. Mmh. Et voilà, j'avais que ça. Et puis, les films. Le 3 que je n'ai d'ailleurs pas vu, heureusement. J'ai juste vu la scène avec les oiseaux. Mm-hmm. Clin d'œil à Hitchcock, c'était sympathique. Mais voilà, quoi, c'est pas du tout, on va dire, il n'y a plus rien du scénario avec les virus, tout ça, et cette espèce d'entreprise. Hein.
Et ça ne fait pas peur, contrairement au jeu.
Mais c'est ça, c'est qu'ils ont fait un truc grand public, même avec un film de zombies, or il n'y a pas de trip. Si tu fais un film de zombies, malheureusement, il faut que ça soit un petit peu tendu, quoi, quand même.
Justement, aseptisé, tout est aseptisé maintenant. Mmh. Moi, je trouve. Hein.
Oui, non, mais t'as raison. Hein. Sauf dans les jeux. Les jeux maintenant, il y a quand même des jeux de plus en plus violents et sombres. Hein.
Bah, il y a Mad World qui est un jeu Wii qui est, on va dire, ultra violent, mais très gore. Mais on va dire, c'est tellement gore que ça va dans l'artistique. C'est assez joli en plus. Sinon, il y a un exemple qui me vient, au fait, c'est l'exemple de X-Men Origins Wolverine. J'ai vu le film. Et j'ai vu le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, franchement, je me suis dit, mais enfin, c'est Wolverine, quoi. Parce qu'il y a de la violence, il y a de la vraie violence, quoi. Tandis que dans le film, c'est une cata.
J'ai pas vu, donc je pense pas que je le verrai, parce que c'est pas... Les trucs de super-héros, c'est pas ça m'embête pas beaucoup, en fait, mais
Oh,
Ouais, non, mais les X-Men, j'ai trouvé ça pas mal, mais ça m'emmène pas, si tu veux, ça me laisse un petit peu à l'extérieur. Tous les tripes, tout ça, même, enfin, tu vois, Spider-Man, je trouve ça très très bien, mais bon, sans plus, quoi. Tout ce qui est un peu super-héros, tout ça, bon, je trouve ça bien, bien fait, mais bon.
En parlant de super-héros, tu as vu The Dark Knight?
Oui.
Qu'est-ce que t'en as pensé?
J'ai trouvé ça très très bien, mais pas certains crient au chef-d'œuvre, je sais pas, c'est un petit peu long quand même, mais c'était ouais. Non, c'était bien. Ça faisait penser un peu à ton étant un truc de super-héros, un vieux film des années 70, un peu sombre comme les Américains pouvaient le faire. C'était très bien, les personnages étaient vraiment intéressants, et à la limite, c'était Christian Bale qui était le moins intéressant dans l'histoire.
Là, c'est le Joker. Heath Ledger a fait quelque chose d'énorme.
Le Joker était bien,
mais
Two-Face était bien aussi. Hein. Son personnage gentil et tout, qui perd ses illusions et qui devient le méchant, tout ça à la fin, c'était pas mal vu, ça, quand même.
C'est dommage qu'il meure à la fin. Oh.
Bah ouais, et puis c'est peut-être un petit peu sous-développé par rapport au Joker, où c'était quand même le numéro de, tu vois, de Heath Ledger, quoi, qui est superbe dedans, quoi. C'était vraiment très très bien. Mais à voir ce qu'ils vont faire après, ce qu'il va faire avec le troisième, on verra, quoi. Mais c'était bien, Dark Knight, j'ai dû voir deux ou trois fois, ça m'a bien plu, mais ça m'a pas sidéré, j'ai pas pris une grosse baffe, comme on parlait de Fight Club, tu vois. Il y a des films, tu vois, qui te sonnent vraiment pour de vrai.
C'est vrai que Fight Club, ça a une force narrative, mais dès qu'on sort de ce film, on a envie de tout casser, quoi. C'est incroyable. Hein. C'est rebelle, c'est intelligent, c'est malin, c'est de la manipulation, c'est de l'illusion, c'est vraiment magnifique, quoi. Et puis, c'est un rythme incroyable. Hein.
Ouais, et puis c'est super bien filmé, c'est un gros délire, et il t'emmène avec. Artistiquement, c'est hallucinant, l'histoire qu'il te raconte, les personnages sont mortels, enfin c'est drôle, c'est méga violent, c'est tout, quoi. Et à la fin, il te piège, quoi.
Complètement.
Non, c'était chouette. Enfin, il y a d'autres films qui laissent des grosses claques, hein. Old Boy, par exemple, m'avait mis une grosse claque.
Ah oui, ah c'était terrible. C'était vraiment terrible.
Non, vas-y. Hein.
Non, mais c'est vrai que on est, je sais pas si tu l'as vu, c'était un film sud-coréen, et au fait, c'est l'histoire d'un mec qui est emprisonné pendant, je crois, à peu près 10 ans ou 15 ans, tout seul, 15 ans. Voilà, tout seul, donc, il a plus de contact avec sa famille, je crois même qu'elle est tuée, et puis dès qu'il ressort, mais alors là, c'est la vengeance, il veut savoir qui lui a fait ça. Et au fur et à mesure, bon, là je dis des spoilers, donc faut se boucher les oreilles, on se rend compte que ce mec, qui au départ était un espèce de paumé, d'ivrogne presque, il a commis l'erreur de dire quelque chose de calomnieux, ou alors de révéler un secret. Et au fait, l'homme qui l'a enfermé, il voulait lui faire payer. Donc au fait, il y a un changement de situation où au fait, on commence à être du point de vue du méchant. Enfin, de celui qu'il avait enfermé en disant « Ah ouais, mais il a raison, il a déconné le mec. » Et voilà, on est touché par les deux personnages, et on se dit l'un méritait vraiment ce qui lui est arrivé, mais d'une certaine manière, on comprend pourquoi l'autre veut se venger. Et voilà, c'est cette identité, ce dédoublement, c'était très intéressant, quoi.
Et tout à l'heure, tu me disais que tu étais fan de Christian Bale, enfin que tu appréciais plus ou moins ses films.
J'aimais bien son travail. Après, si tu regardes sur la longueur, il fait toujours à peu près les mêmes rôles, dans le même registre, des gars qui sont un peu barrés. Je pense que lui-même doit l'être un peu.
Sûrement.
Non, j'aime bien ce que j'ai vu de lui dans ses films. C'est un mec que je trouve pas mal. Ouais.
Par exemple, American Psycho,
qui était... Moi, American Psycho, c'était très bien. The Machinist, à la limite, c'est trop bien ce qu'il fait, parce que je trouve que sa performance, en fait, gâche le film, quelque part, dans le sens où il est tellement allé dans l'extrême qu'en fait, tu ne regardes que lui. Et c'est un défaut que j'ai trouvé avec The Machinist, et dès que tu vois l'image, tu dis « Oh là là, t'hallucines !» Et en fait, ça te détourne un peu du film. Tellement, sa performance est hallucinante, quoi. Et puis d'avoir perdu 30 kilos, visuellement, c'est fort, quoi.
Il faut le faire quand même, hein, pour
Non, mais il y a peu d'acteurs qui sont capables de faire ça.
Très peu. Ouais, enfin, à ce point-là, oui, mais enfin, je pense que quelque part, Christian Bale, il est bien secoué, quoi, quand même. Hein. Il a été, quand il était à Londres, il a été entendu parce que il est plus ou moins tapé sa mère.
Sa mère.
Il y a les enregistrements sur le plateau de tournage, enfin, etc. Je pense que c'est un dingo. Hein,
sur Terminator.
j'aime beaucoup Christian Bale. Ouais.
Comme moi.
mais il y en a beaucoup. Après, c'est toujours comme les questions. On dit, tiens, c'est quoi ton film préféré ou quel est ton comédien préféré. Je trouve que c'est une réponse très très difficile à donner. Parce que des films, il y en a des tas.
Ouais, ça change en fait.
Il n'y a pas un film préféré. Après, il y a des films que j'ai vus un certain nombre de fois, mais après, ça dépend de l'humeur, ça dépend de tas de choses, quoi. C'est comme les comédiens, tu vois, t'adores le travail d'un comédien, puis un jour, tu vas le trouver moins bien sur un film, ou je sais pas, ça, c'est... bon. De façon générale, j'apprécie beaucoup les comédiens anglais, donc...
J'aimerais revenir sur un classique, Robocop, de Paul Verhoeven.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé vraiment énorme, ce film.
Ah ben c'est excellent.
Par rapport à ce que... un remake bientôt de par celui... Ah. J'ai oublié son nom, celui qui a fait Requiem for Dream et...
Arnold Ardonovski. Oh là là, excusez-moi.
Ouais, c'est truc. Il a fait The Wrestler aussi avec Mickey Rourke.
Ouais. À voir, mais bon, après, il aura sûrement pas la rage qu'avait Paul Verhoeven à ce moment-là.
Je l'ai encore vu il y a peu de temps en version Director's Cut. Donc les scènes sont certaines scènes, par exemple quand Murphy c'est sur le point de devenir Robocop, donc quand il se fait tuer, c'est encore plus gore, quoi, dans la version Director's Cut, c'est hallucinant.
Ah bon?
Ah oui.
Non, c'est méga violent, oui.
Ça me prend toujours au bide, hein, quand je regarde, même si c'est bon par rapport à maintenant, c'est assez mal fait, mais c'est un charme et ça me prend toujours au ventre.
Non, mais c'est une cruauté sur...
Mais après, quand tu vois Robocop 2, Robocop 3, après tu as eu une série de deux saisons, une saison, je sais plus, et quatre téléfilms, ils ont tué Robocop de Paul Verhoeven, quoi.
Bah ouais. Mais Paul Verhoeven, ouais, il a quand même fait, dans fin des années 80, début 90, il a fait quelques tueries, quand même.
Bah, c'est lui qui avait fait Total Recall.
Ouais, Starship Trooper aussi.
Oui.
Que ça, j'ai vu, je sais pas, un certain nombre de fois, ça, je suis très très fan de Starship Trooper.
Je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai peu de souvenirs de ce film.
Ah,
regarde-le encore, parce que c'est marrant, c'est que à l'époque, quand il avait sorti le film, on l'avait traité un peu de fasciste, tout ça, et que lui disait que non, qu'il avait un peu extrapolé la société américaine. Et quand tu vois récemment ce qui a pu se passer au niveau de leur politique étrangère, etc., et que tu regardes Starship Trooper, c'est assez troublant quand même. Hein. Et il avait pris à l'époque, il avait fait un casting en prenant les petites starlettes, hommes et femmes des séries américaines, tous beaux, les dents blanches, etc. Et dans le film, il est déchiré, empalé par les araignées, coupé en feu, etc. Et il y avait ce côté de news qu'on a eu après avec CNN, si tu veux. Et lui, il l'avait fait à l'époque où t'as les spots de pub au, pendant les reportages en direct de la guerre. Vous voulez en savoir plus, ce qu'il avait déjà fait dans Robocop.
Ouais,
et t'as des gens qui sont en direct, oui, nous sommes en direct de la bataille, etc. Enfin, comme on a vu avec l'Irak, etc. Quoi. Mais lui, il l'a fait il y a hyper longtemps. C'est à revoir, hein. Starship Trooper, c'est à revoir. Et en plus, ça passe si mal vieilli que ça, même au niveau des effets spéciaux.
Il va falloir que je me procure.
Ah oui, il faut vraiment que tu vois, parce que comme il l'a dit, c'est vrai que ça n'a pas vraiment beaucoup vieilli. Enfin, moi, je l'ai vu il y a à peu près 5 ans, mais je me souviens que j'étais écœurée tellement c'était gore, mais c'était...
Ah oui, c'est violent, ouais. Mais c'est superbe. Enfin, vraiment, c'est un film, top film, quoi.
Et une question, peut-être que je me plante, hein, parce que je me souviens plus, est-ce que c'est Paul Verhoeven qui a fait Basic Instinct?
Oui.
Oui, d'accord, c'est pour être sûr.
Et après, Instinct, il me semble qu'il avait fait Showgirl. Et après, il a dû faire L'Homme Invisible avec Kevin Bacon, qui avait moyennement marché. Et je pense que c'est tout, parce qu'ensuite, il est reparti en Hollande faire le Black Book. Un film d'aventure pendant la guerre à l'ancienne. C'est très, très bien.
Et je crois qu'il y avait des problèmes à l'époque, juste avant Robocop en Hollande, par rapport à ses films.
Il pouvait pas. Il avait des films. Ce qui est marrant, c'est que quand il est arrivé aux États-Unis, il a fait des films un peu plus commerciaux, plus de blockbusters, alors qu'il venait d'une scène plutôt cinéma d'auteur en Hollande, où il a fait des films qui étaient vraiment très particuliers, très sexuels, très sombres, mais auteurs. Hein. Les Soldats de l'Orange, des choses comme ça, Spetters, c'est des vieux films. Je crois qu'il y a un coffret d'ailleurs qui est sorti avec ses 5-6 films. Il y avait Rutger Hauer d'ailleurs. C'est Rutger Hauer c'est Paul Verhoeven qui a lancé Rutger Hauer, qui ensuite est parti aux États-Unis faire Blade Runner.
Blade Runner. Oh.
Ça aussi, Blade Runner, c'est monstrueux.
Mais c'est un film que à sa sortie, qui avait été, un peu, ça me rappelle Terminator 4, qui est en train de se faire descendre dans les critiques. Et Blade Runner avait connu la même chose.
Ouais, il y avait des gens qui avaient critiqué que c'était pas, il y avait eu un remontage, etc. Mais enfin, moi, à l'époque, j'étais allé le voir au cinéma. J'ai donc bien cet âge-là. ça avait très bien marché à l'époque. Hein. C'était un pur film de SF. Ridley Scott, tu vois, en deux films, il s'est assis très très haut, hein, quand même. Hein. Enchaîner Alien et Blade Runner, c'était la baffe, quoi.
Ah, c'est clair.
Même son premier film d'avant, Les Duellistes, qui était super bien, sur les guerres napoléoniennes, c'était vraiment super.
Et j'ai vu un vieux film qui s'appelle le Duel. Je sais pas si c'était le premier film de Spielberg ou Duel. De Cameron. Oui, Duel.
Duel, ouais, c'est Spielberg.
Les autos, ouais. C'est ça?
Ouais, avec un camion qui poursuit un chauffeur, enfin un automobiliste.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est Duel. Et il me semble que, je sais pas si c'est peut-être pas le premier film. Je pense qu'il avait fait avant Sugarland Express, je pense, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être après. Mais non, Duel, ça va être son premier film en fait. Ouais, c'est ça.
Je pense à mon avis parce que c'est comme ça qu'il a pu après rentrer là, à Hollywood pour de bon.
Parce que, quand tu me disais sur les retours, tout ça. De Metal Gear, c'est vraiment le seul jeu où il y a des retours où j'ai rencontré des gens, quoi.
C'est un jeu qui a marqué beaucoup de gamers, quoi. C'est
en bien ou en mal.
Surtout en bien, ça.
Je pense, parce que sinon il n'y aurait pas aussi, si tu veux, des gens qui se défoulent sur différents forums. Quand tu fais quelque chose, c'est bien que les gens réagissent déjà. C'est même super. Que c'est pas plus du tout à certaines personnes, que c'est beaucoup plus à d'autres personnes, c'est top.
Ah bah tiens, en parlant, quand ta fille grandira, parce que moi, voilà, je suis tombée dans la marmite MGS, mais est-ce que tu essaieras de lui montrer MGS, de lui faire jouer avec ta voix pour voir si elle va aimer ou pas?
Peut-être, je sais pas, on verra, je l'ai à la maison, pourquoi pas. Déjà, de temps en temps, elle voit des petites images quand je joue, donc ça la fait rire de voir son papa sur un écran. Mm-hmm. Bien que certaines choses que je joue, elle peut pas les voir, parce que c'est...
Comme Roche Rouge, j'ai vu des images, ton... Roche Rouge, laisse tomber, tu fais flipper, hein.
Comme... c'est pas vrai, c'est un film. non, c'est vrai que souvent, je me retrouve à faire des dingos, quand même, hein, mais bon... C'est vrai que quand je tourne, je fais souvent des choses un peu violentes, ou des fous, quoi. Mais peut-être que je lui montrerai les jeux, oui. Bah déjà, quand elle entend, ou s'il entend une pub, ou tu vois, enfin, des petites choses, quand je fais mes archives audio sur mon ordinateur, ça la fait rire, quoi.
T'es beaucoup sur MTV, non?
Oui. Je fais l'habillage d'antenne de la chaîne depuis quelques années, maintenant. Donc je fais les bandes-annonces, certaines pubs en partenariat, etc.
Je t'ai jamais reconnu.
Bah après, c'est tu... Après, tu prends différentes voix, quoi.
Après, c'est on te connaît surtout grâce à la voix de Snake.
mais tu vois, des jeux vidéo, j'en ai fait, j'en ai vraiment fait beaucoup, quoi. Et bon, il y a celui-là qui a bien marché parce que c'était un gros jeu, mais y en a une certaine tripotée, quoi. J'ai même participé il y a pas longtemps à, c'était quoi, Need for Speed Undercover. J'ai bossé sur, ça c'était il y a longtemps, mais j'avais bossé sur certains Spyro, Crash Bandicoot, tu vois, bon. C'est des jeux pour enfants, donc c'est complètement, complètement différent, quoi. Et, non, mais Metal Gear, ouais, le premier, je l'ai là, c'est bien. C'est vrai qu'on regrette tous les kids de ne pas avoir fait les suivants. Parce que on s'est rendu compte de, pas dire des erreurs, mais des trucs qu'on aurait pu améliorer. Et on s'était dit, ça serait bien qu'il y ait un deuxième pour que justement, tu vois, on
corrige,
on peaufine le truc, quoi. Et ça s'est pas passé, puis voilà, quoi.
T'es en contact avec toute l'équipe, enfin l'équipe des doubleurs, ou juste avec Stéphane?
Non, pas juste avec Stéphane. Il y avait Olivier Deslandes qui avait supervisé un petit peu l'adaptation en français, ouais, à l'époque. Qui me semble, enfin, il joue des petits rôles dedans. Félix Molikowski, je le connais bien. Framboise Gaumandi aussi. Enfin, tous, parce qu'on habitait à Londres à l'époque et on se fréquentait, quoi. J'ai plus les contacts de tout le monde, mais Olivier Deslandes, oui, parce qu'on travaille encore ensemble sur différents projets. Puis c'est un ami très proche, puis Stéphane, quoi.
Qui est mon frère, comme dans un Metal Gear Solid.
Thomas, on vient de découvrir le corps de Miller à son domicile. Il est mort depuis au moins 3 jours. Je ne comprenais pas pourquoi ma communication par codec avec Maître Miller était coupée. Mais Mailing m'a appris que le signal provenait de la base.
Alors, c'est qui?
Thomas, tu es en train de parler à...
À moi, mon très cher Thomas. Et Anna est avec vous, n'est-ce pas?
Bonjour Stéphane, tout d'abord, merci de m'avoir accordé cette interview.
Bonjour, et de rien. Ni hao, ni hao.
Peux-tu te présenter en quelques mots?
Alors, en quelques mots, je m'appelle Stéphane Cornica, je suis acteur, je suis basé en Angleterre. J'ai beaucoup travaillé dans les jeux vidéo, mais aussi pour la télé et le cinéma. En fait, j'ai commencé dans le théâtre à un très jeune âge, première production à l'âge de 14 ans. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis pour enfin arriver à Londres après un long parcours.
En incarnant Jean dans Il faut sauver le soldat Ryan, tu fais partie des rares Français à avoir travaillé avec Steven Spielberg. Parle-nous de ton expérience.
Alors, c'était assez extraordinaire parce que... Alors, je vais vous donner en fait une journée type, parce que j'ai travaillé sur Il faut sauver le soldat Ryan pendant un petit peu plus de 15 jours. Et en fait, le matin, à 4 heures du matin, j'avais une limousine qui venait me chercher à la maison. Donc 4 heures, c'était le départ. Il fallait une heure et demie pour aller sur le lieu de tournage, qui était un ancien aéroport désaffecté, où ils avaient complètement recréé le village et puis tous les lieux en fait de Il faut sauver le soldat Ryan. Ensuite, c'était maquillage et puis wardrobe, c'est-à-dire costume. Ensuite, on allait prendre le petit déjeuner et là, on avait la chance. En fait, Steven Spielberg est très très proche de ses acteurs et qu'en fait, quand on travaillait avec lui sur une scène ou sur, enfin pendant une période, généralement, on déjeunait avec lui et on mangeait le repas du midi avec lui. Donc en fait, on se retrouvait à des, c'est des grandes tablées, hein, c'est des tablées qui vont avoir à peu près 20 personnes, 20-25 personnes, et en fait, on est tous ensemble. Donc petit déjeuner, ensuite ma scène à moi, elle se passe sous la pluie, donc c'était la douche. Et puis ensuite, c'était, puisque c'est une des scènes centrales, en fait il y avait énormément d'angles de caméra, c'est pour ça que j'ai travaillé dessus pendant 15 jours. Mais une expérience extraordinaire, hein. Je me rappellerai toujours, c'est alors le premier jour, alors déjà j'étais nerveux, mais en plus... Le personnage est complètement paniqué. Enfin bon, il est sa maison a été bombardée et tout. Donc pour essayer de rentrer dans le personnage, en fait, je faisais les 100 pas en parlant à moi-même et tout ça. Et j'ai la directrice de casting, donc celle qui m'avait donné le rôle au début, qui arrive et puis qui me fait « Ça va Stéphane, t'es sûr que ça va ?» Parce qu'en fait, elle était persuadée que j'étais en train de péter un plomb. Alors, je m'étais obligé de lui expliquer que non, c'était mon métier. C'est ce que je faisais quand je devais faire quelqu'un qui allait péter un plomb vraiment. C'est que j'étais moi-même limite de péter un plomb. Mais bon, c'était une expérience incroyable.
Et tu as pu rencontrer Tom Hanks et les autres acteurs?
On était, en fait, je te dis, tous les midis, on mangeait ensemble. Pendant qu'on attendait, puisque t'as beaucoup d'attentes sur les sites de tournage, on discutait, je lui ai tiré les cartes. Donc oui, c'était très convivial.
Quels sont les autres réalisateurs avec qui tu rêverais de jouer et ceux que tu apprécies?
En fait, ceux avec qui je voudrais jouer sont tous morts, malheureusement.
Oh quel dommage.
C'est vrai qu'il y en a, beaucoup avec qui j'aurais aimé jouer et qui malheureusement ne sont plus avec nous. Je sais pas, parce que en fait, en tant qu'acteur, je dirais que on m'envoie un script. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais décider. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord.
Je vais pas donner de nom parce que, bah, d'une part, j'aimerais pas me fermer des portes. Et puis d'autre part, ça va dépendre aussi du script. Donc, ça va être surtout le script qui va me.
Bien sûr.
Qui va m'aborder, moi.
Stéphane, j'ai le pouvoir de ressusciter l'un de tes réalisateurs préférés. Lequel choisirais-tu?
Cécile B2000, probablement.
Très bien.
D'après toi, la 3D est-elle l'avenir du cinéma et qu'as-tu pensé d'Avatar?
Alors déjà, pour commencer, j'ai adoré Avatar, j'ai vraiment adoré. Les gens ont dit que c'était simpliste, moi je l'ai trouvé ça simple, mais pas simpliste. Je trouve que c'était bien orchestré, c'était bien dirigé, c'était un bon niveau d'acteur, mais surtout c'était l'immersion qui était incroyable, c'est que
le côté technique du film, après le scénario reste assez simple.
La capacité que le film a à inviter l'acteur, enfin le spectateur au milieu des acteurs, justement à cause de la 3D, c'est qu'on a on a vraiment l'impression d'y être, on est
d'assister
d'être dans la jungle
à leur côté et de combattre avec
eux. Exactement, et puis d'être il y a tout le relief qui fait que moi j'ai eu l'impression de m'endormir, d'être dans un très bon rêve, genre un rêve 3 étoiles, et puis d'en ressortir, je sais pas, 1h30 après. Mais c'était en fait une expérience cinématographique sublimée par la 3D.
Et comme tu dis, scénario simpliste, faut pas oublier que tout est réécriture et que comme pour le premier Star Wars où il fallait sauver une princesse, on retrouve, on va dire, des histoires simples mais qui deviennent après, par la suite, compliquées.
Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'il n'y a jamais de création réelle, de vraie création. Ce qu'on a, c'est des récréations.
Réécriture, tout à fait.
Depuis Ovid jusqu'au
Tristan et Iseult,
toutes ces histoires reviennent constamment. On les habille différemment, on les maquille différemment. Maintenant, on les met en 3D. Tout ce qui va faciliter l'immersion du spectateur va aider l'expérience cinématographique. Maintenant, pour tout ce qui est par exemple, de films intimistes, je pense par exemple American Beauty en 3D, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que ça restera un attrait pour tout ce qui va être les grandes sagas. Par exemple, j'aurais bien aimé voir le Clash des Titans.
Il y aura sûrement ça, à mon avis, parce que comme les DVD, il y a beaucoup d'anciens films qui sont sur DVD. Ils vont essayer de voguer sur cette vague en proposant sûrement plus de contenu. Faudra voir, de toute façon.
Voilà, par exemple, les Aliens. J'adorerais qu'ils reprennent ça et qu'ils essaient de le faire en 3D. Ça, je serais... Je ne sais pas si c'est vraiment très possible.
Si, c'est possible. Certains films sont reconvertis.
L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple, c'était un film en motion capture. Et ouais. Il a été complètement fait en 3D, donc c'est possible.
Certains réalisateurs, comme Christopher Nolan, ne veulent pas de la 3D pour le prochain Batman. Il a confirmé que son film sera en IMAX. D'après lui, lors de sa sortie, la mode sera passée. Bon, pour moi, la 3D pour des films comme Avatar, je dis oui, mais pas pour les autres qui profitent du phénomène.
Tout ce qui va être action va fonctionner, je pense. Et c'est vrai que si on a quelque chose qui est très atmosphérique et assez, assez sombre, comme ont tendance à être les derniers Batman... Mmh. Je sais pas si
ça fonctionnerait
dans ça. Apportera grand chose.
Eclecticity couvre l'actualité ciné, musique. Quels sont tes films, tes albums références?
Je suis très alien. Vraiment, c'est une série que je regarde à peu près. Je vais les regarder au moins une fois par an. C'est vraiment. Et puis je fais du découpage scène par scène. Et puis c'est pas parce que c'est des aliens. C'est parce que j'aime beaucoup
l'univers.
Le film monté. J'aime beaucoup. Enfin c'est bon. C'est difficile à expliquer pourquoi. Enfin, c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, il y a les frères Cohen. J'adore tout ce que font les frères Cohen. Depuis le Big Lebowski jusque
Serious Man.
Ouais, enfin tous vraiment. Je trouve à chaque fois, je trouve que j'arrive. On est sur la même longueur d'onde. J'arrive à rentrer dans leur monde. Ce qui est pour moi le plus important. Et puis pour la musique, j'écoute de tout.
De tout.
Depuis Madonna jusqu'à Lady Gaga, en passant par tout. Je passe partout. J'écoute tout. Je ne refuse rien. J'aime ou j'aime pas, mais j'écoute tout.
Des goûts assez éclectiques.
Complètement. Ça va bien avec le avec le site que tu héberges.
Certains d'entre nous, gamers, te connaissons pour tes doublages, entre autres, Gabriel Logan dans la série Siphon Fighter, Primal, tu doubles G-Man dans le célèbre Half-Life 2, aussi Liquid Snake dans Metal Gear Solid. Lequel de ces doublages tu affectionnes le plus ? As-tu des anecdotes ?
Alors, pour moi, je pense que, bon, c'est quand même Metal Gear qui reste mon préféré. D'une part, parce que c'était travailler avec une équipe qui était assez fantastique, il faut le dire. Emmanuel Bonamy, qui est resté un très très bon ami à moi, Olivier Deslandes, qui s'occupait du casting et qui est aussi resté un très très bon ami. Bon, tous, bon, on travaillait alors dans le studio des Beatles à Abbey Road. Toute l'expérience était assez... Alors, d'une part avec les contraintes de temps, d'autre part avec la présence des clients, c'était une expérience forte, hein. C'était intense. Je me rappellerai toujours avoir travaillé, entre autres, avec Philippe Smolikowski côte à côte dans le studio, et Philippe Smolikowski ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il était tout excité et tout ça, et je me rappelle très très bien cette situation où je me disais. C'est pas possible, on a encore 50 pages à faire, on va pas continuer comme ça, c'est pas possible, on peut pas. Mais bon, c'était une expérience assez incroyable. Je pense une des expériences les plus prenantes dans les expériences du jeu vidéo, pour moi.
Tu as travaillé avec Eric Viennot sur In Memoriam, quelle a été ton expérience ?
D'abord, Eric Viennot, c'est un grand bonhomme, c'est une tête, c'est... probablement une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées de ma vie, à la fois de par sa vision artistique et de par ses qualités humaines. Il a une intelligence de l'humanité, vraiment. Il est bon. Le tournage, ça s'est fait en fait en Espagne, au Portugal, en France, aux États-Unis, en Écosse. Bref, on n'a pas arrêté de se balader. Alors, une petite équipe, hein, un caméraman, un accessoriste, Eric Viennot, et puis les acteurs, quelqu'un pour le son. Donc, une toute petite équipe, on se relayait pour faire la conduite, enfin, vraiment une très très bonne atmosphère, mais ouais, une expérience géniale. Je ne sais pas si vous connaissez le produit final, mais... avec les moyens qui ont été dépensés pour le faire, c'est, à mon avis, ce qu'il a réussi à faire, c'était assez incroyable. C'est très prenant parce que c'est un jeu, en fait, qui dépasse les limites du jeu vidéo. C'est-à-dire que il utilise, par exemple, les emails. On reçoit des emails. On reçoit des coups de téléphone sur son portable.
D'accord.
Parfois, le tueur va envoyer des messages. Parce qu'en fait, on est à la recherche d'un tueur. Et on s'associe avec d'autres gamers en temps réel pour résoudre les énigmes. Donc c'est très, il y a une immersion qui est énorme. Encore une fois, on retrouve ce mot. Hein. Mais l'immersion de ce jeu de In Memoriam est incroyable. Comme j'ai vu peu de jeux qui arrivaient à vous faire rentrer dans l'univers comme ça. Justement parce que ça vous surprend, parce que d'un seul coup on a des emails, on a des messages au téléphone, on commence à faire dans son pantalon.
Tu as participé au doublage français, anglais, allemand, espagnol de Napoléon Total War. Outre la performance linguistique, que s'est-il passé pour que tu sois autant impliqué dans le projet ?
En fait, ce qui s'est passé, ça a été un casting où en fait ils m'ont fait venir pour tester pour la version anglaise. Et dans le courant de la conversation, en fait, bon, ils savaient que j'étais français, c'était pour ça aussi qu'ils me faisaient venir, hein, pour jouer Napoléon avec l'accent français en anglais. Mais dans le courant de la conversation, je leur ai parlé du fait que je parlais l'allemand, que je parlais l'espagnol, que je parlais aussi l'italien, et puis le russe, et puis le chinois. Bon, on a commencé à parler langue. Et puis, peu de temps après, en fait, ils m'ont demandé de faire des essais en français, en allemand, en espagnol et en italien. Et en fait, j'ai eu tous les rôles, sauf le Napoléon italien. Et pour une raison bien particulière, c'est que pour les Italiens, Napoléon n'a pas d'accent français. Ils le considèrent comme étant italien.
Ah, à cause des origines corses, je suppose.
À cause des origines corses, à cause du fait qu'il a été empereur d'Italie, Bonaparte. Enfin, il est dans toutes les dépictions de Napoléon, que ce soit film ou bien bon, quoi que ce soit, il est toujours représenté comme parlant un italien parfait, sans accent. Donc, la raison pour laquelle j'ai pas fait le Napoléon italien, c'est que quand je parle italien, j'ai un accent français.
Une petite démonstration pour nos auditeurs?
Ah, posso parlare italiano, ma perché sono francese, ma non posso parlare molto bene. Non è troppo difficile parlare italiano.
Grazie mille.
Prego, prego.
Lors de mon entretien avec Emmanuel Bonamy, voix française de Solid Snake, il m'a confié que s'il avait eu plus de liberté, il aurait donné à Snake une voix beaucoup plus complexe, moins guerrière, moins rauque à la Rambo. Un bon nombre de fans l'oublient, il y a eu des directives, les Japonais étaient présents lors des sessions d'enregistrement. As-tu eu des exigences particulières pour jouer?
Alors, moi j'ai eu le problème opposé de ce qu'a eu Emmanuel. Emmanuel, en fait, on lui a demandé de tout simplifier dans son jeu. En fait, il devenait simplement deux dimensions, quoi, très, très plat malgré tout. Et c'était vraiment les directives du client qui lui ont imposé de travailler comme ça. Moi, j'ai eu deux directives, en fait. La première, c'était de baisser ma voix au maximum parce que il voulait que tout le monde ait des voix graves. Et l'autre, c'était en fait que, bon, généralement dans une réplique, on va mettre deux émotions, trois émotions peut-être. Et en fait, il m'empilait les émotions. C'est-à-dire que par moment, une seule phrase allait avoir jusqu'à 6, 7 émotions différentes. Ce qui faisait en fait, ce qui donne à Liquid son côté disjoncté. C'est-à-dire qu'il parle comme ça, et puis d'un seul coup, il devient très doux, très...
calme.
Mais en même temps, il a les deux aspects, il a vraiment cette bipolarité d'être à la fois, de pouvoir prétendre être gentil et de pouvoir être absolument infect. et bon, moi j'ai eu plus de chance qu'Emmanuel à ce niveau-là, parce que la critique m'a moins tapé sur les doigts que pour les choix qui ont été faits pour Emmanuel. Moi, jusqu'ici, je m'en suis bien sorti dans ce que j'ai lu des commentaires sur le web.
Oui, ton travail effectué sur MGS n'a pas suscité de polémique, contrairement à Emmanuel.
Voilà, contrairement à Emmanuel ou d'autres sur le jeu. Hein, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu l'impression de passer un peu à l'as. Mais bon, c'était, encore une fois, quand on a trois clients japonais, enfin deux clients japonais, plus le producteur japonais, plus toute l'équipe de production dans le studio, en fait, l'acteur a peu de choix. Ouais. Et il faut penser aussi que, je ne sais pas si les fans de jeux vidéo savent vraiment comment se font les enregistrements. Les acteurs ne se rencontrent pas, déjà. Il n'y a pas de lecture commune du texte. Toutes les phrases sont en fait enregistrées séparément.
Même les scènes quand les personnages sont ensemble.
Quand c'est une conversation, en fait, on est obligé d'inventer dans sa tête le ton de la question.
D'accord.
De façon à pouvoir y répondre. De même, en fait, si on considère comment dire, tout ce qui est référence, on n'avait aucune référence visuelle.
Oh là là.
C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un parle à 50 cm de quelqu'un d'autre ou à 50 mètres, donc il y en a un, ça va être comme ça, et l'autre, ça va être beaucoup plus fort. En fait, on ne savait pas.
Et aucune indication.
Le client n'était pas toujours capable de nous le dire non plus. C'est pour ça que, bon, personnellement, quand j'ai lu certains des commentaires qui ont été faits sur, entre autres, Framboise Gomandi ou sur Philips Molikowski, ou bon, eh bien, il y a eu beaucoup de commentaires, en fait, qui n'étaient pas mérités, qui étaient des commentaires qui ont été faits de par la façon dont l'enregistrement fonctionnait à cette époque-là. Maintenant, les enregistrements ont changé. Moi, en tant que directeur de plateau et metteur en scène sur Need for Speed, j'ai été le premier à faire venir tous les acteurs de façon à ce qu'ils aient une lecture ensemble, qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent. Et ensuite, je les ai fait venir séparément en studio, parce que les faire venir tous ensemble, ça revient à trop cher. Mais par contre, qu'au moins, ils aient eu cette lecture.
Et pour ça, ils peuvent se baser sur ce qui s'est passé juste avant, lors de l'échange.
Ils pouvaient se rappeler déjà des inflexions et tout ça, alors que la plupart du temps, on travaille dans le vide encore. Hein. Ça va changer, mais ça, c'est encore comme ça.
C'est très intéressant parce que moi, ce qui m'a toujours choqué, voilà, c'était cet enregistrement à part. Et même pour un jeu pourtant récent qui était V-Rain, les acteurs, ils ont été enregistrés séparément. Or, comme il y a beaucoup de conversations, qu'il y a beaucoup aussi de paroles, de dialogues ou de monologues, c'est parfois les émotions ne collent pas du tout et ça se ressent. Mais maintenant, quand je sais ça, c'est vrai que je juge pas, on va dire, de la même façon un acteur, quoi.
Ouais. Alors disons que maintenant, enfin, les choses évoluent bien entendu hein, dans la façon dont les doublages se font. Maintenant, il y a de plus en plus. Disons que ils vont faire venir les acteurs d'incidence, c'est-à-dire les petits rôles d'abord. Et maintenant, ils gardent les enregistrements sur une session qui est généralement Pro Tools. Et ça permet en fait à l'acteur principal quand il arrive en dernier d'avoir en fait des conversations. Parce que les autres acteurs ont déjà été enregistrés. Donc, il peut répondre aux questions et peut communiquer. À cette époque-là, on n'avait même pas les enregistrements des autres. Donc, on ne pouvait rien faire. En fait, on était vraiment laissé à la merci du metteur en scène. Et quand on pense que on avait 3 Japonais, 1 Français et 2 Anglais dans le studio. Les messages qui passaient étaient parfois contradictoires.
Ouais, problème de traduction.
Problème de traduction, puis problème aussi de ce que chacun voulait. C'est-à-dire que par moments, on nous disait « Essaye comme ça. »« Oh non, 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 j'aime pas, donc vas-y, essaye comme ça. » Donc, bon, c'est une session de travail où on est supposé rechercher les choses, mais c'est vrai aussi que on n'est pas non plus dans le processus de répétition du théâtre où, en fait, tout ce processus-là se passe avant, en amont. Là, on est en situation d'enregistrement. Donc, mais bon, c'est encore une fois, les choses évoluent. Hein. Pas assez rapidement que je voudrais, mais les choses évoluent.
Et si la voix de Liquid Snake était à refaire, apporterais-tu certains changements ?
S'il y avait la possibilité de tout refaire, par exemple de faire le quatrième et que par hasard mon personnage revienne d'une façon ou d'une autre, c'est sûr que je ferai de telle sorte que tous les acteurs se retrouvent avant pour faire une lecture enregistrée qui nous permettrait ensuite de récupérer les parties de dialogue de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans des portions de dialogue. Je mettrai un support visuel beaucoup plus substantiel, de façon à être sûr que bon, si quelqu'un parle à 3 mètres, il ne parle pas comme s'il parlait à 50 et vice-versa. Mais au niveau de ma performance à moi en tant que Liquid, moi j'étais assez content de Liquid. J'aime beaucoup ce personnage-là, moi.
Et quel est ton passage préféré dans Metal Gear ?
Alors, mon passage préféré dans Metal Gear, c'est le moment de la torture quand il annonce qu'ils sont frères, parce qu'il y a, chez Liquid un niveau d'émotion et de sentiment qui est peu présent dans le reste du jeu. Et c'est à ce moment-là qu'on sent cette humanité et puis qu'on sent bien que c'est un écorché vif. Donc c'est pour ça que c'est mon passage préféré.
Aurais-tu un petit message à faire passer aux fans de la saga ?
Un grand merci d'avoir aimé la saga et puis de la garder en vie quelque part, de faire qu'elle soit toujours vivante. Ouais, en fait, j'ai été heureux de faire partie de votre adolescence.
Oh, merci beaucoup.
Stéphane, encore merci de nous avoir accordé cette interview.
Ben, de rien, un plaisir, vraiment.
Et ben, je te dis à très vite.
Ben, moi aussi, et puis bisous de Londres à vous deux, et à tous ceux qui vous écoutent.
Merci pour eux, puis à bientôt, salut.